Numéris le confirme. BPM Sport a vraiment le plus gros tailgate à Montréal. En un an, Tailgate Weekend double ses parts de marché chez les hommes 25-54. BPM Sport. Maintenant, la radio de sport numéro 1 au Canada.
Avec Patrick Friolet de RDS et du Tailgate Weekend. Quelle fierté que j'ai de dire ça à chaque week-end. Comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, merci beaucoup. Un peu dommage pour le Canadien qui menait hier 2-0. On s'est incliné 4-2 contre Washington. Quand on ouvre la porte à une puissance comme ça de la Ligue nationale, c'est ce qui arrive. On a eu des opportunités, mais en même temps, quand tu as des opportunités, tu dois être opportuniste, comme disait un grand sage grec.
Oui, ben c'est exactement ça. C'est là où ça s'est joué. Puis dès le début de son point de presse d'après-match, Martin Saint-Louis l'a abordé. C'est quand tu as autant d'occasions de qualité, il faut quand même soulever notre chapeau à Logan Thompson, là, qui a fait de très bons arrêts. Mais Nick Suzuki en échappé, c'est quand même assez rare qu'il rate son coup. On a vu un peu tout le monde là, avoir des chances de qualité A, comme on dit. Puis quand tu te retrouves seul contre le gardien quatre fois dans une période, à un moment donné, au moins une, ça aurait fait du bien pour creuser un peu l'écart à un certain moment. Puis là, ben peu à peu, les Capitals ont gagné du rythme. En troisième période, marque trois buts. T'sais. C'est la façon dont ils ont répondu. Dès le début de la deuxième période, Pierre-Luc Dubois qui marque. Là, à ce moment-là, on réduit l'écart. Puis par la suite, ben ce qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est la façon dont les Capitals ont été patients. Parce que ils ont pas forcé les choses, mais ils sont demeurés fidèles à ce qu'ils font bien. Provoque un peu l'adversaire en fond de territoire, mettre beaucoup de pression. C'est un beau modèle à suivre quand même quand on regarde la façon dont ils ont joué dans ce match-là. Le Canadien a pas été capable de reprendre le dessus par la suite parce que quand on regarde juste la répartition des tirs au but, après deux périodes, c'est 17-15 en faveur des Capitals. Ça a été 18-9 seulement dans la troisième période pour les Caps. Donc, c'est sûr que on s'attendait à ce qu'il y ait une poussée. La poussée est venue très fort. Et malgré tout, ben on a eu ces occasions-là de se distancer. Puis ça fait quand même quelques fois, là, il y a une thématique. Regardez ce qui s'est passé dans les matchs contre les Islanders, contre les Prédateurs de Nashville, même contre les Rangers, lorsque c'était l'égalité. Le Canadien a eu l'occasion d'aller marquer le but qui aurait pu faire la différence, mais on n'arrive pas à aller chercher ça présentement. Puis à certains moments, ça va fonctionner comme ça a été le cas contre les Islanders, contre les Preds. À d'autres moments, quand on a des très bons adversaires comme les Capitals, ben ça devient plus difficile quand t'as ces occasions-là que t'en profites pas. À un moment donné, l'équilibre va se retrouver dans l'autre sens parce que les Capitals, c'est une équipe, comme je le disais, patiente, fidèle à ce qu'on fait sur la patinoire, puis tout le monde est capable de contribuer offensivement.
Ouais, effectivement. Mais si maintenant c'est ça le plus gros problème du Canadien, d'aller chercher le gros but. Tu comprends, on est plus en voiture qu'on l'était la dernière fois qu'on a affronté les Capitals. Là,
ah ben, il y a du positif, c'est clair. Le dernier affrontement contre les Caps, on se rappelle ce que Martin Saint-Louis avait dit après le match par rapport à la troisième période. Là, la troisième période a pas bien été encore une fois, sauf que on peut pas. C'est facile de regarder la feuille de pointage.
C'est ça, c'est pas la même chose du tout. C'est ça, exactement.
C'est ça, l'histoire de la game, quand on regarde la façon dont le match s'est déroulé, ben le Canadien était là. Et oui, il y a beaucoup de positifs. Le jeu défensif s'est amélioré, mais malgré tout, offensivement, là, on est rendu là. On est rendu à aller chercher plus d'attaques.
On a plus de réponses à nos questions, Pat. On a une troisième paire de défense, là. T'sais, Savard, Jack Eye, c'est parfait. Change pas ça. Et là, le top 4, on a quelques petits ajustements peut-être à faire, mais quand même, on a des réponses à nos questions, c'est intéressant. Et tu sais, tu parlais des Capitals qui sont tout un modèle à suivre. J'espère que, tu sais, notamment Kirby Dach, s'il voit jouer un match comme Pierre-Luc Dubois hier, hey, tu sais quoi, c'est peut-être quelqu'un que je pourrais viser à jouer comme, tu sais, en bon français. Là.
Oui, absolument. Puis ils ont des bons... Des bons joueurs, on en parlait un peu hier, mais tu sais, Connor McMichael, c'est un bon jeune joueur qui est très efficace depuis le début de la saison. Dylan Strom fait un super bon travail avec eux. Là, Tom Wilson qui va marquer des gros buts pour eux en troisième période, malgré sa joue qui était très enflée. Puis les Capitals, là où on dit aussi que c'est un beau modèle, tu sais, Martin Saint-Louis le disait, ils font pas beaucoup d'actions qui aident l'autre équipe. Puis là, mais malgré tout, tu sais, tu regardes le deuxième but que les Capitals marquent dans ce match-là. Josh Anderson s'en va vers l'autre territoire, réussit presque sa sortie, mais échappe son bâton. Et là, tout à coup, ça se retrouve, l'attaque transitionne de l'autre côté. Kaden Goulet perd pied, il y a un effet domino un peu. Ça, ce genre de séquences-là vont arriver dans les matchs, mais tu sais, les bonnes équipes, c'est les équipes qui sont capables de faire ce genre d'action-là le moins possible. Puis les Capitals sont brillants dans cet aspect-là. Tu sais, ça a été difficile par moment pour eux l'an passé, mais il y a eu une belle poussée avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur. C'est une équipe qui a appris à avoir de bonnes habitudes, à prendre de bonnes décisions, à être constant dans le niveau d'effort, le niveau d'engagement. Tout ça, ben, c'est des ingrédients que le Canadien est en train de bâtir. Quand on parle de reconstruction, on veut pas juste reconstruire avec les joueurs, on veut reconstruire dans la façon de se comporter sur la glace. Puis il faut être honnête, là, en ce moment, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on voyait en début de saison chez
exact.
Le Canadien.
Ben oui.
Mais évidemment, c'est une équipe qui n'est pas encore à maturité, donc on va en voir des erreurs comme ça dans les matchs.
Tu sais, on est presque au même point qu'on l'était l'an dernier. Sans Jake Allen, sans Sean Monahan, et ça, écoute, c'est quand même pas rien de le mentionner. Il y a aussi Lane Hudson hier qui a égalé un record d'équipe qui est quand même assez vieux. Et tu veux dire, quand tu mets ton nom à ta saison en grue à côté d'un gars comme Chris Chelios, t'as pas à rougir, là.
Absolument, c'est 6 mentions d'aide dans 6 matchs de suite. Donc, il y a 6 matchs de suite avec un point. Pour un défenseur recrue, c'est une marque d'équipe. Et ça égale le record de Chris Chelios là, qui avait été établi. En fait, Chris Chelios, en 1984, avait égalé la marque de Glenn Harmon. Donc, si Hudson fait un point dans le prochain match, il va être le premier défenseur recrue à avoir des points dans 7 matchs de suite. Tu sais, ça fait juste s'ajouter à ce qu'il est en train d'écrire comme jeune joueur dans ce circuit-là, Lane Hudson. Oui, ça sera pas parfait. C'est un jeune défenseur. Le Canadien, souvent dans les matchs, est exposé défensivement, mais en attaque, de voir ce qu'il est capable de créer, de voir les lignes de passe qu'il trouve. Moi, c'est ce qui me fascine parce que tu le sais, Greg, on voit des matchs d'en haut sur la galerie de presse. Puis pour les fans qui regardent le match à la maison, c'est différent de le voir à la télé ou de voir d'en haut. Quand on est en haut puis qu'on voit des jeux, on a toujours l'impression que le jeu va plus lentement. Puis on voit facilement les lignes de passe. Puis des fois, ce qu'on voit en haut, ça se traduit pas sur ce qu'on voit dans la décision des joueurs. Mais Lane Hudson, lui, il les voit ces jeux-là. Il les voit les lignes de passe qu'on voit d'en haut.
Ah, il a fait de la magie hier, là, une fois par période. Oui. Tu sais, en première période, je me souviens plus qui il a sorti de ses culottes, là. Et en deuxième, c'était Brandon Duhem qui demandait pas ça. il a viré de direction d'un côté, il a échappé à sa couverture, il a été magistral. Mais tu sais, il va falloir continuer de lui donner de l'appui et d'avoir un meilleur appui, d'être prêt pour ces jeux-là. Tu sais, on dirait que des fois, j'ai l'impression que le seul qui comprend Lane Hudson, c'est Patrick Laine. Il est tout le temps au bon moment pour recevoir les passes de Laine, pour comprendre où est-ce qu'il s'en va avec le jeu. Ils ont peut-être la même intelligence. Là. Là, tu vas me dire Nick Suzuki également, t'as raison. Mais, tu sais, va falloir qu'un deuxième trio soit plus performant que ce qu'on voit présentement. Là. Est-ce qu'on remet Slavkovski sur le premier trio pour tenter de le relancer comme on l'a fait l'an dernier? À peu près à pareille date l'an dernier, d'ailleurs. Là. Parce que là, je veux dire, il faut qu'on voit quelque chose de Kirby Dach et de Juraj Slavkovski.
Ben, il y a deux aspects dans ça. D'abord, Lane Hudson, on le voit jouer avec des meilleurs joueurs de plus en plus. Là, il est sur la première vague en avantage numérique. Exact. Combien de fois, au début de l'année, on a vu Lane Hudson servir des passes de grande qualité à un joueur, exemple Alex Newhook, qui était pas prêt à le recevoir, qui est un peu pris par surprise. On le voyait en avantage numérique à certains moments sur la deuxième vague, où les joueurs étaient peut-être pas dans la même qualité au niveau mental que Lane Hudson. Là, on voit Lane Hudson jouer avec des meilleurs joueurs. Ça le fait briller encore plus. Les joueurs sont capables de mieux le suivre, mais t'as raison, l'attaque, elle vient seulement encore du premier trio dans le match d'hier. T'sais. Puis Alex Newhook joue un bon match, mais en même temps termine le match puis a pas de points sur la feuille de pointage. Donc c'est clair. En fait, excuse-moi, il a marqué un but. Ouais. Mais quand on regarde depuis le début de la saison, l'attaque vient pas nécessairement d'autres gens que du premier trio. T'sais. Brandon Gallagher a 8 buts, Emil Heinemann en a 6, Jake Evans en a 5. Puis là, par la suite, ben on n'a pas de production constante de la part de Kirby Dach, de Slavkovski encore. Donc, même si on voit qu'ils jouent mieux dans les matchs, qu'ils s'impliquent plus, que l'effet Laine semble les aider puis les tirer un peu vers le haut, ben ça se traduit pas encore sur la feuille de pointage.
Plus, mais il finit pas encore, Pat. Il finit là ta mise en échec. Ça va bien, man. T'es gros, tu comprends? C'est ça, là. T'sais.
Ben, c'est ça. Puis c'est là où... C'est là où on fait la différence avec les bonnes équipes, tu sais, parce que si hier T'sais, on parle des quatre échappés en troisième période, mais si tu es capable d'aller chercher un but de ton deuxième trio, t'sais, ça sera pas toujours Dvorak, Gallagher et Anderson qui doivent appuyer. Là. Il faut que l'appui vienne du deuxième trio. Donc, t'sais, on parle des Capitals. Regardez qui produit au niveau des Capitals, on a des buts d'un peu partout. Et malgré tout, on a l'absence d'Alex Ovechkin. Donc, tu sais, c'est là où ça fait toute la différence.
Mais j'ai l'impression que Spencer Carberry a donné une mission à ces gars-là qui embarquent là-dedans. Pierre-Luc Dubois, j'ai parlé hier après le match. C'est le fun de te voir aller. T'as l'air impliqué. T'as acheté la mission. Mais tu le voyais, là, il est motivé. Il joue du très, très bon hockey. C'est le Pierre-Luc Dubois qu'on a vu en série à Winnipeg. C'est ce Pierre-Luc Dubois-là qu'on est en train de revoir. Puis c'est beau. Je pense qu'on peut être content pour lui. Cela étant dit, il y en a un avec le Canadien. Tu parlais d'offensive, là, mais Cole Caulfield. Sur un rythme encore là, de 51,6 buts. Pas beaucoup de marge de manœuvre, tu vas me dire. Mais quand même, FX a viré des yeux quand j'ai dit ça. Je pense qu'il est sorti du studio, est allé s'essuyer un peu, je sais pas. Là. Est-ce qu'il pourrait faire 50 buts?
50, ça va être difficile, j'ai l'impression. Tu sais, je connais ton enthousiasme pour la question, puis c'est pour ça que je l'ai mise dans mes
non, mais c'est une question. Là. Il y a 27 matchs de jouer. Il est sur le rythme. Il a déjà connu un passage à vide. Ouais, il va ralentir. Il a déjà ralenti, mais il a parti à produire, puis il continue quand même. Donc, c'est une question, je suis pas en train d'affirmer à 100% qu'il va le faire. Pour moi, là, en ce moment, à matin, là, je suis prêt à te dire qu'il va faire 40 buts cette saison. Il est déjà à 17.
Il y a des très bonnes chances, les statistiques sont en sa faveur à ce niveau-là. Il y a un aspect, par contre, que je suis pas certain que le Canadien va maintenir, c'est... On a eu l'absence de Patrick Laine au niveau des blessés là, depuis le début de la saison, sauf que mis à part ça, le Canadien est quand même demeuré en santé. Est-ce que ça va vraiment tenir le coup? Je parle pas juste de Caulfield, mais je parle d'autour de lui. C'est sûr que si on commence à perdre un élément ou deux, ça peut faire mal à sa production. Le fait qu'il soit sur la première vague avec Patrick Laine, je trouve que ça a comme du bon et du moins bon. C'est sûr qu'il va peut-être toucher un petit peu moins la rondelle, mais en même temps, l'attention portée vers Laine va peut-être ouvrir des occasions pour Cole Caulfield aussi. Ça reste à voir. J'ai envie de voir dans les 5, dans les 10 prochains matchs comment tout ça va évoluer. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéressait aussi. Je trouvais que Cole Caulfield décochait pas tant de tirs depuis le début de la saison. Il y en a 71, puis ça le place même pas dans le top 50 au niveau des tirs. Sauf que ce qui est surprenant, c'est que quand tu regardes les 6 meilleurs marqueurs de la Ligue, qui inclut Cole Caulfield, là, tu as Kirill Kaprizov, Brayden Point et William Nylander qui sont à 16 buts aussi, puis les deux meneurs, Sam Reinhart et Leon Draisaitl à 19. Tous ces joueurs-là sont à peu près dans le même nombre de tirs que Cole Caulfield. Il est quand même à 22,5 dans son pourcentage de réussite. Là. Puis, tu regardes le plus impressionnant à ce niveau-là, Brayden Point a quand même marqué 16 buts en seulement 46 tirs au but. Ça, c'est quand même assez impressionnant, là. Il est à 34,8 en ce moment. La question, c'est toujours, est-ce que dans ces joueurs-là, lequel va voir son pourcentage baisser un peu? Est-ce qu'il y en a qui vont se mettre à tirer un peu plus, à tirer un peu moins? Est-ce que l'intérêt de l'autre équipe à fermer les lignes de tir pour ces joueurs-là va s'accentuer? Mais je pense que Cole Caulfield, en ce moment, est en pleine confiance. Il semble avoir retrouvé le plaisir de jouer, on le sent détendu, on le sent... j'aime beaucoup ce que je vois de la part de Cole Caulfield. Je pense qu'évidemment, les 30 buts, c'est un no-brainer à ce point-là.
Pat, je m'excuse, le temps file. Absolument te poser la question parce que je sais que tout comme moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous rassemble pas mal. T'es un grand fan de Formule 1. Comment as-tu apprécié la saison et la course d'aujourd'hui?
Ben, la saison m'a laissé un peu sur mon appétit parce que j'aurais voulu en voir un peu plus là, de la part de McLaren à certains moments. Je trouvais qu'il y a eu des occasions ratées, mais en même temps, Verstappen demeure quand même l'homme à abattre. J'ai pas vraiment aimé son comportement dans les dernières semaines, dans justement ce matin aussi, où on voit la collision dans le premier virage avec Piastri. Sa façon de répondre aux questions, sa façon un peu de...
Il a traité les officiels d'idiots là, ce matin.
Ouais, c'est ça.
Directement
c'est ça,
sa radio en sachant. Puis on vient d'y poser la question. Là, t'as maintenant 8 points de démérite sur ton sur ta licence, sur ton super permis. Il dit ben je vais m'arranger pour en avoir 12 quand mon enfant va naître. Oui, boy, boy.
Ben c'est ça. C'est ce genre de réaction-là que j'aime moins de la part de Max Verstappen. Puis tu sais. Autant on dit un pilote, quand il voit un trou, il doit foncer, mais dans le premier virage ce matin, est-ce que c'était vraiment nécessaire de plonger de cette façon-là sur Piastri en sachant très bien que le contact était quand même très élevé dans le pourcentage de chances. Là. Donc, c'est ça. C'est ce genre de choses-là qui m'ont dérangé un peu, mais ça demeure quand même un grand pilote. Mais j'ai très hâte de voir l'an prochain comment ça va se dessiner avec Hamilton chez Ferrari, avec les mouvements chez les pilotes. Là, est-ce que laquelle de ces équipes-là va être capable de monter son niveau? J'adore ça, suivre ça. Puis, j'ai très hâte de voir la prochaine saison.
Pat, merci beaucoup de ta présence encore une fois en fin de semaine. Je te laisse au bon soin le week-end prochain de mon ami François-Xavier Bénard et également du grand détective Pimento qui seront avec toi. Puis nous, on se retrouve pour le temps des fêtes.
Ce sera un grand plaisir. Bonnes vacances, mon cher Greg.
Merci, mon chum. À très bientôt.
Attention à toi. Bye-bye. Voilà.